Gilles Bogart, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général en charge des finances et des opérations de Pernod Ricard. On va parler avec vous de votre premier semestre. Comment ça s'est passé pour vous, effectivement? Est-ce qu'on a eu, notamment sur la deuxième partie de ce semestre, une amélioration de la croissance organique, notamment?
Globalement, un semestre solide dans la continuité des semestres précédents. Deuxième trimestre dans la continuité du premier trimestre. Une croissance organique des ventes de 3%. Croissance faciale de 6% de 7% pardon, grâce à un effet devise favorable. Tout ça s'est tiré par une accélération de la croissance aux États-Unis et par une poursuite du dynamisme de nos ventes dans des pays comme l'Inde ou la Chine. Donc un trimestre et un semestre conformes aux attentes, ce qui nous permet d'ailleurs de confirmer notre guidance annuelle, une croissance interne du résultat opérationnel courant comprise entre 1 et 3%.
Dans votre secteur, quand on parle aujourd'hui d'un environnement difficile, ce sont des marchés spécifiquement. On peut parler de la Corée, la Chine, bien entendu, depuis un petit moment. Qu'est-ce qui aujourd'hui, c'est quoi? C'est les consommateurs? C'est des zones particulières?
Je pense qu'effectivement, même si on a l'habitude d'utiliser la segmentation marché mature d'un côté ou marché émergent de l'autre, dans la réalité, on voit que les dynamiques de croissance sont différentes d'un marché mature à l'autre, d'un pays émergent à l'autre. Donc il faut effectivement rentrer dans le détail de la performance par marché et même plus fondamentalement de nos marques dans chacun des marchés. Globalement, effectivement, les États-Unis, qui sont notre principal marché, 18% des ventes vont mieux. Ça, c'est encourageant. Jameson continue à tirer la croissance. Absolut va un peu mieux, c'est encore trop tôt pour parler de succès, mais on est en ligne avec notre feuille de route de stabilisation de la marque à moyen terme. Effectivement, si on regarde notre deuxième marché, l'Inde, croissance à deux chiffres, là c'est dans la parfaite continuité des années précédentes, et là on est sur un pays émergent. Troisième marché, la Chine, également marché émergent, c'est un marché qui est pour nous toujours en baisse modérée puisqu'on affiche une baisse de 2%, même si c'est un peu favorisé par un nouvel an chinois plus précoce. Et là, on a un contexte macroéconomique plus difficile en Chine. On a également des mesures anti-dépenses ostentatoires qui sont toujours là. Donc, c'est trop tôt aujourd'hui pour parler de rebond, même si on reste tout à fait confiant à moyen terme sur notre capacité à renouer avec la croissance en Chine. Et après, dans les pays plus difficiles, c'est souvent lié aux enjeux macroéconomiques, hein. La Russie, c'est plus difficile compte tenu de l'embargo, compte tenu aussi du prix du pétrole qui est plus faible. L'Amérique latine aussi, notamment au Brésil, c'est un peu plus difficile aussi, compte tenu du contexte.
On a entendu récemment l'année 2015 des vins et spiritueux, donc avec une année record pour les Français. On voit sur différents segments où c'est plus compliqué. Finalement, cette tendance-là, vous, à travers vos différentes marques, vous sentez qu'il y a effectivement une année positive qui se dessine?
Les exportations françaises donc portent sur les vins tranquilles, les champagnes et les cognacs. D'ailleurs, au niveau des vins tranquilles, la performance française est moyenne. Par contre, sur le cognac et le champagne, on a effectivement une croissance assez soutenue. Il est vrai qu'en valeur, c'est favorisé par le fait que l'euro était plus faible, hein, donc il y a un effet technique qui est assez fort. Mais il y a eu aussi un rebond à la fois pour le champagne et pour le cognac sur l'année calendaire 2015. Et dans ce contexte, les marques de Pernod Ricard ont très bien performé, hein, puisque Martell est en croissance à deux chiffres sur l'année calendaire en valeur. Et nos champagnes ont une croissance qui s'approche des 10%. Donc on est très satisfait des performances de nos marques dans ces deux catégories en particulier.
Si on revient sur sur Chivas, par exemple, on parlait d'Absolut tout à l'heure. Chivas, Absolut, c'est un peu les deux marques qui doivent, alors moins pour Chivas, mais qui doivent se redresser.
Oui, globalement, on a eu un semestre difficile sur les deux marques pour des raisons différentes. En ce qui concerne Absolut, il y a les US et le reste du monde. Aux US, même si on a eu une baisse des ventes sur le premier semestre, accentuée par pour des raisons techniques, des expéditions un petit peu en deçà de nos expéditions, de nos sorties grossistes, les tendances sous-jacentes s'améliorent. Et ça, c'est encourageant. On est sur des Nielsen à moins 1 sur la marque aux États-Unis, alors qu'on était à moins 5 il y a un an. Donc on a un début d'amélioration sur Absolut aux États-Unis. En dehors des États-Unis, la marque poursuit sa croissance. Il y a eu sur le semestre une exception notable qui est le travel retail, qui a été beaucoup plus difficile, mais qui est un marché beaucoup plus volatile. Donc on est confiant sur notre capacité à poursuivre la croissance sur Absolut hors des États-Unis sur le long terme. Sur Chivas, la performance a été impactée défavorablement par l'Asie chinoise et également par le travel retail qui a été moins performant sur le semestre. Bon, néanmoins, on reste positif sur le long terme.
Dans vos annonces aussi, hein, vous indiquez un certain nombre de d'évolution de votre organisation. On parle de nombreuses marques, on parle de nombreux pays avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut croiser encore plus les activités des uns et des autres, les savoir-faire des uns et des autres?
Globalement, c'est un peu comme ça qu'on est construit, c'est dans notre ADN. Hein. On a des sociétés de marque d'un côté, des sociétés de distribution de l'autre. Et la force de Pernod Ricard, c'est l'interaction entre ces sociétés de marque et ces sociétés de marché. On y croit, c'est la base de notre modèle. Et ça continue à être le fer de lance de Pernod Ricard, une organisation décentralisée, à bicéphale. Ce qu'on a fait avec cette réorganisation, c'est que tout d'abord, le marché américain, nord-américain, est un marché très important en taille, complexe, qui représentait plus de 70% des ventes de la région Amérique, et on a décidé d'en faire une région à part entière pour des raisons de simplification d'organisation, sachant que pour l'Amérique latine, on a regroupé les différents marchés autour de deux management entities, le Brésil d'une part, le Mexique de l'autre, qui reporteront à Pernod Ricard IMEA, sachant que la région IMEA, donc Europe-Afrique, a déjà une vraie expertise pour gérer ce type de marché. Il y a des similitudes entre certains marchés d'Amérique du Sud et certains marchés d'Europe du Sud. Donc on pense qu'il y a une plus grande cohérence à piloter les marchés de cette manière. Et le dernier changement qu'on a annoncé, c'est au niveau du travel retail. On a trois régions aujourd'hui et elles seront regroupées au sein d'une même entité, travel retail, avec un patron commun, ce qui assurera une coordination renforcée entre nos régions au niveau du travel retail.
Dans ce contexte qu'on évoquait, les investissements vont être maintenus en croissance pour les différentes marques?
Oui, alors d'ailleurs, lors du premier semestre, on a montré une croissance des investissements marketing de l'ordre de 6%, donc plus élevée que nos ventes, pour des raisons en partie de phasage, mais aussi je pense que ça traduit le fait qu'on continue à investir pour le long terme sur nos marques, nos couples marques marchés clés, notamment aux États-Unis et notamment aussi derrière nos projets d'innovation qui d'ailleurs commencent à délivrer. Hein, sur la croissance organique de 3% des ventes, il y a 1% de la croissance qui vient de nos innovations, donc ça c'est tout à fait encourageant. Donc il est important de garder un flux d'investissement suffisant derrière nos relais de croissance futures. Donc on va continuer à investir. Pour l'ensemble de l'année, le ratio d'investissement sur chiffre d'affaires devrait rester à peu près stable au niveau de 19% des ventes.
Le mot de la fin, vous parliez d'innovation justement. Qu'est-ce qu'il y a comme innovation, si vous deviez en citer une, qui vous paraît importante, intéressante pour l'avenir?
Je vais même vous en citer plusieurs. Aux États-Unis notamment, qui représentent à peu près 2/3 des innovations dans le marché des spiritueux, donc c'est un marché clé pour l'innovation. On a lancé Jameson Caskmate, donc il y a un Jameson dont la fin du vieillissement est faite dans des fûts de bière. Le démarrage est au-dessus de nos attentes. C'est vendu 20% plus cher que le Jameson Original, donc c'est à la fois de la croissance incrémentale et aussi de l'impact positif sur nos marges. Chivas Extra, donc également un élargissement de la gamme Chivas. Et dans la tequila super premium, je pourrais parler de Avion et de Altos, qui ont toutes deux franchi la barre des 100 000 caisses. Ou alors Helix, notre vodka super premium. Donc on a lancé pas mal de projets d'innovation depuis quelques années. Ils commencent à délivrer et avoir un impact tangible sur notre performance. Donc on s'en réjouit et très clairement, pour le long terme, on souhaite que l'innovation délivre 1% de croissance incrémentale de nos ventes.
Merci Gilles Bogart.
Merci.